Bienvenue à tous sur le 106.8, adresse sur les ondes de Radio Grand Ciel Chartres. L'or des curieux, émission écrite et réalisée par Robert Giraud, serviteur. Bonjour aussi à Simon Martin, notre ingénieur du son, sans lequel éclaterait au grand jour la triste vérité du bafouilleur invétéré que je suis. Aujourd'hui, nous rendons une visite qui me paraissait être due depuis longtemps, à savoir le compositeur et interprète de notre beau générique, Third Street Gypsy Rag, à savoir Norman Blake, gentilhomme de Géorgie et immense musicien, un véritable livre d'histoire vivant. Il a fait en musique ce qu'ont fait les grands peintres comme Remington, dire le lieu, les gens, l'époque, les métiers et la marche du progrès. Fait œuvre de chroniqueur et de conteur. 9e de l'Ordre des Curieux aujourd'hui, Norman Blake, et un grand bonjour à vous tous. Norman Blake voit le jour à Chattanooga, Tennessee, en 1938, mais est envoyé à Sulphur Springs avant même sa première année, puis à Rising Faun, Géorgie, où il réside toujours. Rising Faun, littéralement le faun qui se lève, du nom du fils du chef Cherokee qui dirigeait ce coin de Géorgie avant que le pays ne le leur vole purement et simplement. La coutume était de nommer sa descendance du nom de la première belle chose que l'on verrait en compagnie de l'enfant. En promenant le nourrisson, le chef vit un jeune faon se lever de sa couche de branchage avant de faire ses premiers pas. Pensant n'avoir jamais rien vu d'aussi beau, il donna à son bébé le nom de Rising Faun, le faon qui se lève, qui donna le nom de la ville. Revenons à Norman Blake. Le jeune garçon qu'il est n'est pas passionné par l'école. Il y fournit ce que l'un de mes professeurs avait qualifié de service minimum. Et sitôt ses 16 ans fêtés, il s'en ira voir ailleurs, décidé à vivre de la musique. Norman a appris à 11 ans la guitare, de sa grand-mère d'abord, qui jouait du piano, de l'orgue et de la mandoline. Elle lui fournira les bases de ce qu'il connaît, lui apprendra à jouer ce Spanish Fandango que nous entendons en fond et qu'il enregistrera plusieurs fois. Il accompagnera également beaucoup son cousin Earl Walraven, violoniste et banjoiste, qui lui apprendra l'art d'accompagner. Les sources de son jeu et de sa personnalité musicale sont donc familiales, avant toute autre chose. Ses goûts musicaux sont étoffés et précisés grâce à la radio. Radio fonctionnant sur batterie alors, il n'avait pas l'électricité, et grâce aux disques, les 78 tours qu'il collectionne toujours. Norman Blake aimait la Carter Family, les Monroe Brothers et Roy Acuff, dont le groupe contenait toujours un dobro, l'un des instruments favoris de Norman Blake. Puis un certain oncle Sam, oncle de toute l'Amérique, convira le jeune Blake à aller perdre 3 ans de sa vie sur le canal de Panama. Il y sera l'opérateur radio du fort. Tout juste arrivé, il met sur pied un groupe de bluegrass, The Fort Cobby Mountaineers. Il y est à la mandoline et au violon. Retour aux USA, Norman vit en donnant des leçons de guitare, guitare dont il joue dans un style un peu hybride, qui n'est pas encore stricto sensu celui qu'il fera connaître. J'y reviens. Ses cours ont un grand succès et de très nombreux élèves satisfaits et fiers de leur professeur font circuler son nom. Dans un premier temps, il pratiquait un jeu de main droite où tout se jouait entre le pouce et le majeur. À son pouce, il portait un onglet et au majeur, un onglet métallique pour rendre son attaque plus précise, plus coupante. Il accompagnait en jouant beaucoup de phrases sur les cordes graves, soit pour donner un contre-champ à la ligne mélodique, soit pour placer opportunément sur le temps une phrase qui relancerait l'ensemble, le propulserait. Mother Maybelle Carter était la reine-mère, la queen-mom de ce type de jeu qu'avait adopté ensuite Lester Flatt et qui sera la base de la guitare bluegrass. Il viendra très lentement au jeu au Mediator. Un de ses élèves lui apportera un jour un disque de Doc Watson. Blake écoute. Il ne connaît pas. Il est intéressé par ce type de jeu en lequel il ne voit cependant qu'une transposition sur la guitare du jeu de main droite du mandoliniste. Son immersion dans le jeu au Mediator sera très progressive, lente, longue, comme l'est aujourd'hui son abandon progressif de ce type de jeu, ou du moins la relativisation de son emploi. Blake a toujours été attiré par les nuances, les contrastes, et s'est toujours défié de tout systématisme. Il gardera toujours très nettement une main droite de mandoliniste et une main gauche de violoniste. Il joue en détachant, en laissant résonner, donc vivre la corde. Il établit une vraie connivence avec l'instrument. Je crois que c'est ce point qui me touche le plus dans sa façon de jouer. Cette liberté laissée à l'instrument d'offrir à l'auditeur et de faire briller sa sonorité propre, son caractère et sa pleine saveur. Lorsqu'un musicien en arrive au point où il se doit de faire œuvre personnelle, il sait ne disposer pour ce faire que d'instruments manufacturés, conçus pour une médiane expressive et non pour une singularité. Et c'est alors qu'il ne peut pas contraindre un instrument. Il lui faut transiger, partager et au sortir se rendre frère, compagnon de route de l'instrument. Le rapport instrumentiste-instrument, c'est la communion. Il n'y a pas d'autre possibilité. Écoutons à présent quelques exemples du jeu de Norman Blake. Thank you. Norman Blake, chanteur, n'a pas à proprement parler une voix impressionnante. Et il serait le premier à en convenir avec vous. Sa voix a même gardé bien des caractéristiques de ce que l'on nomme une voix blanche, à savoir un mince filet sans grande souplesse et expressivité. Blake déroule sa partie chantée, s'en acquitte, sans que rien de crucial ne se produise. Nombreux sont ceux qui ont émis des réserves ou même se sont éloignés de lui pour ce motif. Pour moi, le chant est avant tout art de la nuance fine et de la modulation. Or, étrangement, la voix un peu acide, aigrelette de Norman Blake m'a toujours beaucoup touché. Blake n'a jamais fait grand cas de la sophistication et de la complexité. Son chant est celui de l'homme du commun, de celui qui fredonne un air qui lui passe par la tête. Vu comme une double personnalité, cet anachronisme instrument-voix ne lasse pas de m'envoûter, joignant deux antagonismes censés s'éliminer en une seule expression dont on ne peut rien retirer. Pardon peut-être de ramener en surface de douloureux souvenirs de lycée, mais ne disait-on pas alors que plus par plus égale moins et plus par moins égale plus ? À mon sens, le Norman Blake musicien a joué la complémentarité avec le Norman Blake chanteur. Jouer la complémentarité avec soi-même, et pourquoi pas ? Blake a fait du matériau traditionnel l'essence et l'essentiel de son art, mais il a bel et bien écrit et composé nombre de superbes chansons qu'il aura vu de son vivant devenir des classiques. Je vous propose d'en entendre une à présent, Church Street Blues, Norman Blake.
Watching Good Time Charlie Friends is driving me insane. Down on shady Charlotte Street, the green lights look red. Wish I was back home on the farm in my feather bed. Get myself a rocking chair to see if I could lose them thin dime, hard time, hell on Church Street blues. Yesterday's news, folded up page 21, stuck it in my shoes. Gave me nickel to the poor, my good turn for today. Folded up my old billfold and threw it far away. And I got myself a rocking chair to see if I could lose them thin dime, hard time, hell on Church Street blues. Old Black Diamond brand, I'd string up this old Martin box and go and join some band. But I guess I'm gonna stay right here, just pick and sing a while. Try to make me a little change and give them folks a smile. And give myself a rocking chair to see if I can lose them thin dime, hard time, hell on Church Street blues. Give myself a rocking chair to see if I can lose them thin dime, hard time, hell on Church Street blues.
Norman Blake eut de nombreux collaborateurs. Arrivé à Nashville, ce furent d'abord Hilo Brown and the Timberliners, formation historique des premières générations du bluegrass. Puis vinrent la Carter Family, dont j'ai pu vous dire dans mon émission Bluegrass sur la cinquième corde qu'ils furent les Windsor de cette musique. Et je réitère, Mother Mabel Carter en reine-mère, June Carter en Reine Elizabeth, Epi Carter en Prince Philip, tout ça me paraît parfait. Norman Blake sera leur dobroïste, mandoliniste et aussi banjoïste les dernières années de leur règne. Il poursuivra ensuite avec June Carter, puis avec le grand Johnny Cash, qu'il soutiendra de très longues années et quasiment jusqu'à son dernier souffle, à la guitare puis au dobro. Au programme, tournée incessante, enregistrement et show télé. C'est lors d'un Johnny Cash show recevant Bob Dylan que Blake sera remarqué et Dylan sera sans souvenir au moment de composer les équipes pour son Nashville Skyline. Puis Norman Blake louera ses services à Miss Joan Baez, puis à un autre géant de la country music, Kris Kristofferson. Redevenu soliste, il reprendra sporadiquement le principe du duo avec Tud Taylor, par exemple, musicien unique, grand joueur de dobro, esprit tout aussi musicien qu'anticonformiste. Puis un tout jeune violoniste, Mark O'Connor, trouvera en Norman Blake l'un de ses meilleurs accompagnateurs. Il dialoguera également avec Red Rector, mandoliniste bluegrass au jeu robuste, charpenté, à la sonorité finement et solidement boisée. Bien d'autres encore, tels le superbe et inoubliable John Hartford. Mais celui qui sera son collaborateur le plus marquant sera Tony Rice, avec lequel il enregistrera 2 CD et tournera beaucoup et longtemps. Il faut savoir qu'au départ, Norman Blake était plus que réticent à se confronter à ce géant. Il avait alors déclaré ceci : « Tony Rice est un musicien si moderne, jamais je ne pourrai m'aligner sur lui. » Mais Tony Rice, en être d'exception qu'il est, aura à cœur de fluidifier son jeu, le ralentir, le décomposer presque, s'alignant ainsi à la nature du rythme de Blake, perdant peut-être en débridé, mais gagnant en profondeur et en présence réelle. Les deux musiciens, sûrs de leurs différences, faire force commune, exemple de ce que devrait être tout rapport humain. Écoutons-les à présent. Thank you. Le nom de Norman Blake est indissociable de celui d'une musicienne d'abord classique dans un premier temps. Études de violon, piano, puis violoncelle et le Nashville Symphony Orchestra dès son plus jeune âge. Nancy Ann Short était aussi une passionnée de jazz, initiée par un père musicien dans l'âme. Elle ne dédaignait pas non plus toucher au folk rock de l'époque. Et c'est en se joignant à un groupe de ce style qu'elle fera la connaissance de Norman Blake, qui assurait leur seconde partie. Ainsi se fera leur rencontre, puis leur mariage et leur vie ensemble. Nancy épousera également le musicien. Ce ne sera donc plus simplement Norman Blake, mais Norman et Nancy Blake. Ainsi, le violoncelle pénétrera-t-il la musique old-time, bluegrass et folk. L'iconographie de la musique old-time nous révèle que dès les années 20 du siècle dernier, le violoncelle apparaissait dans les rangs de quelques groupes, rarement certes, mais la réalité était là. Otto Gray and his Oklahoma Playboys, par exemple. Quoique peu de témoignages sonores aient pu survivre au temps, l'on sait par témoignages oraux que l'instrument était vu comme une espèce de contrebasse que l'on aurait pu transporter dans le coffre d'une voiture. Et les groupes passaient la majeure partie de leur vie sur la route. Norman et Nancy ont dû donc repartir du niveau de la mer pour redéfinir une place à ce si noble instrument en cette si populaire forme d'expression. Nancy Blake n'a rien éludé et fera sonner, phraser et nuancer à plein son instrument, en construisant son chemin dans la musique de Norman. Cela sans jamais tenir une position seconde. C'est bel et bien d'un duo qu'il s'agit ici, et plus encore d'un couple. Le générique de mon émission est intitulé « Third Street Gypsy Rag ». Norman Blake y est entouré de Nancy, bien sûr, mais aussi de James Ryan et de son épouse Rachel, plus un autre musicien de passage, qui se trouvait être souvent l'américano-ukrainien Peter Ustruchko. Il s'appelait Norman and Nancy Blake and the Rising Faun String Ensemble. Rising Faun, retour aux sources. Véritable orchestre à plectre d'une Amérique première, ce groupe produisait une musique dense, viscérale, exhalant souvent un fort parfum de vieille Europe. Musique très touchante certains moments, puis irrésistible de swing. Le groupe avait des unissons glorieux, des mouvements d'ensemble à vous soulever de votre chaise, des reprises de thèmes après chorus dignes d'un big band de jazz. Chacun y était polyinstrumentiste, passant de la mandoline à la mandole, au mandoloncelle, au banjo, 4, 6 ou 8 cordes, au violon, à la guitare. Cet ensemble avait 1000 couleurs, toujours vives, toujours changeantes, et vous faisait passer par tous les états possibles, de la pure jubilation à la méditation, de l'émotion à la danse. Nous allons les entendre. Ainsi se clôt cette trop courte demi-heure en leur belle compagnie. Norman et Nancy, depuis, ont annoncé leur retraite et ils semblent malheureusement tenir parole. Lorsqu'ils ont pris cette décision, l'un et l'autre ont voulu tout briser de leur vie antérieure et se reconstruire, pièce par pièce, redéfinir par eux-mêmes les contours de la vie future qu'ils se souhaitaient. Ainsi ont-ils divorcé, vécu séparément, pour se reconstruire avant de réaliser qu'ils étaient réellement liés et indispensables l'un à l'autre. Ils se sont donc remariés 3 ans après leur divorce et vivent à Sulphur Springs dans leur ferme au pied des montagnes. Norman a dit n'avoir pas eu un seul instant de sa vie le souci de faire carrière. Il dit aussi aimer par-dessus tout et au-delà de tout faire de la musique avec sa femme Nancy et que lorsque quelque chose de beau, de bon en sort, alors seulement il a le sentiment d'un accomplissement, d'une plénitude. Comme souvent chez les artistes américains célébrant l'histoire et la gloire de leur pays, ce sont des progressistes, des humanistes, des gens tournés vers l'avenir. Ils se montrent assez inquiets de l'évolution de leur pays, des instincts violents et dominateurs qui s'y expriment. Inquiets aussi, pour appeler les choses par leur nom, des choix politiques. Une citation au hasard de Nancy Blake. On se doit de protéger avant toute chose les chemins de la paix. La vie est chose si subtile, si fragile. Nous n'avons besoin que de petites, mais de bonnes choses pour pouvoir avancer avec grâce au travers de nos existences et pas de détruire tout sur notre passage. N'ayant aucune chance de leur exprimer ma gratitude de vive voix, ils ne prennent jamais l'avion, que cette émission soit un salut amical et admiratif que je leur adresse. Norman and Nancy Blake, Third Street Gypsy Rag. Merci à vous, Dieu nous garde tous et à très bientôt. Au revoir.